Monsieur Truchon, bonsoir.
Bonsoir.
Je pense que ce soir, nous allons poursuivre et terminer notre étude de la cinquième béatitude, celle des miséricordieux, avec le fonctionnement de la miséricorde avec le Christ.
Oui.
Alors, parlez-nous, je crois, des expériences de miséricorde dont vous voulez nous parler.
Oui. Alors, je rappelle un peu l'auteur dont je parlais, qui est un psychiatre, et dont je pratiquais la méthode, mais moi, avec le Christ. Alors, repassant cinq étapes de cet auteur, qui était Jen Lynn, le titre de son livre, c'est « Au centre de soi ». Alors, la première étape, c'était de revivre son problème, d'une certaine manière jusqu'à un certain point, mais pas trop non plus. Deuxièmement, de prendre une distance et d'essayer de s'imaginer que si on ne vivait pas ce problème-là, comment ça serait, comment qu'on serait bien. Et troisièmement, de revivre ce sentiment de souffrance ou de problème et d'essayer de nommer le mot qui exprime bien ce qu'on ressent. Quatrièmement, de vérifier ce mot pour voir vraiment si c'est le bon. Et cinquièmement, d'accepter la libération qui s'est produite. Alors, c'est évident qu'avec le Christ, il se passe éminemment encore autant et bien plus encore qu'en thérapie, si vous voulez, humaine, ce qui est déjà beaucoup, qui est un instrument du Christ lui-même d'ailleurs. Mais avec le Christ, qui est le roi et maître de l'univers, et qui est la source même de nous, et qui a vécu personnellement toutes nos souffrances et notre histoire personnelle, alors arriver à communier dans le Christ à soi-même, en cet état, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, par exemple, prenons par rapport à soi. Lorsqu'on ne s'aime pas soi-même, on est dans un sentiment de rejet face à soi-même, qu'on ne s'aime pas. Un jour, j'avais vu quelqu'un qui se donnait des claques en se regardant dans le miroir puis disant « facelette ». C'est évident que c'est pénible de voir ça pour moi, parce que j'aimais un peu cette personne et je me disais c'est triste, c'est de valeur.
Oui, c'est dommage.
Alors je me disais fais pas ça, mais elle le faisait parce que elle vivait ça. Alors en fait, on blesse notre créateur quand on fait ça, parce que notre créateur nous a fait et il a fait une merveille qu'on est, mais qu'on ne connaît pas et qu'on n'apprécie pas, et en fait on le blesse. Et pour dire d'une certaine manière, on blesse la Trinité au fond de soi-même. Et la Trinité aimerait qu'on retombe en voyage de noces avec, surtout si on ne l'a jamais fait. Alors en fait, là, Dieu, il nous aime tel qu'on est actuellement. Et il voudrait qu'on accède à cet amour-là de soi. Et c'est par son amour à lui qu'on arrive à ça. Regardant surtout la croix, par où il a passé, on trouve la valeur de ce qu'on vaut finalement. On vaut le Christ mort lui-même. C'est plus que de l'argent, ça. C'est plus qu'un rachat d'argent. C'est sa vie même qui y passe. Alors ça, c'est par rapport à soi. C'est d'arriver à se découvrir comme un acte de Dieu, un acte d'amour de Dieu. Le fait qu'on existe prouve que Dieu existe avec une certaine évidence, puisqu'on est là. Et c'est le principe de causalité dont les savants se servent tant. C'est sûr qu'on ne voit pas cette causalité-là, mais elle est bien là dans son fruit. Et la foi, justement, consiste non seulement à savoir cette causalité, mais à en être émotionné, à en vivre et à y communier. Alors, celui qui s'aime ainsi toujours avec le regard et le cœur de Dieu, ben, c'est évident qu'il vient gagner le gros million. Maintenant, continuons l'expérience. Si on en arrive avec un problème qu'on a avec quelqu'un, bon, c'est évident que le Christ, il m'aime. C'est évident qu'il aime cette autre personne-là. Alors, c'est de valeur ce qui arrive, cette rupture, cette blessure qu'on a entre nous. Alors, le Christ peut la réparer aussi en passant par toutes sortes de moyens, bien sûr, et en particulier en retrouvant l'amour de soi. Parce que pour aider un autre à se retrouver, il faut se retrouver soi-même. Alors, il faut renforcer son moi, l'amour de Dieu en soi. Et ça va être ça, la prochaine béatitude qu'on va voir, là, qui est si importante, le cœur pur, là, puis j'ai hâte de la voir en fait, là. C'est que c'est là qu'il va se construire la possibilité de miséricorde. Parce qu'ayant éprouvé sa propre misère, l'ayant détruit par un acte d'amour infini, tout en continuant à vivre des difficultés, nous ne vivons plus les mêmes problèmes de la même façon. C'est évident que nous sommes plus forts, parce qu'avec la force du Christ, le Christ ne force pas. Quelqu'un qui est fort, plus il est fort, moins il force. Alors la vie, ce n'est pas faite pour être forcée, ce n'est pas faite pour être forçant. C'est fait pour être aimé, contemplé, et pour l'améliorer, y travailler, tout ça. Mais on ne travaille plus de la même manière. On ne vit plus de la même manière. Et c'était le but de la prière, ça, d'arriver à la communion à l'être aimé. Parce que la prière et la méditation nous font passer par trois étapes. Premièrement, le crucifix est extérieur à nous. On le médite. On médite c'est le Christ, on médite sa vie, on médite ses mystères. Mais c'est comme extérieur à nous. On n'est pas trop intéressé. On trouve ça des fois plate. On dit « je ne suis plus capable de prier, je ne m'intéresse pas ». C'est normal, c'est la première étape. On va chercher du bois pour chauffer le foyer. Alors, il faut bien se déplacer un peu. Alors là, c'est l'étape active, si on veut. Là, on met le bois dans le foyer et là, on allume le feu. Bon, mais là, il faut souffler dessus encore. Ça brûle pas fort, il fait froid encore. Mais se faire bien, c'est mieux un peu. Ça commence à chauffer, ça éclaire un peu. Finalement, le bois, il est tellement pris qu'il est difficile à éteindre. Ben, c'est ça, l'amour.
J'aimerais justement revenir sur cette question de l'amour de Dieu pour nous. À quoi est-ce que vous faites allusion quand vous affirmez que des signes accompagneront nécessairement celui qui croit en un tel amour? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous précisez que l'Esprit fera par lui des merveilles uniques, capables de confondre les faux prophètes? Quelle sorte de signes, sorte de merveilles, M. Trouchamp?
C'est ça. Des signes qui demeurent des signes tant qu'on ne croit pas, puis qui deviennent des preuves quand on est en amour. Alors, il y a comme un paradoxe, là, et même pour certaines contradictions. C'est certain que l'amour, ça ne se prouve pas comme ça. On peut toujours douter de l'amour de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'au fond, notre cœur n'y croit pas. Parce qu'on dit « ça se peut pas, c'est trop beau ». Alors, c'est pas vrai, cette affaire-là. Puis personne ne vit, puis finalement, on croit à personne. Alors, ce qui arrive, c'est que l'amour, là, c'est fondamentalement une espérance, d'abord. On désire aimer, on désire être aimé. Ça, le désir, là, il est enfoui, là. Mais à un moment donné, si on commence à investir là-dedans, là, à un moment donné, là, on agit. Puis les manières avec lesquelles on agit deviennent de plus en plus évidentes qu'on aime l'autre et l'autre y croit. Et quand on croit à l'amour, on réussit à tout prouver comme étant de l'amour. Et c'est, même quand il n'y en a pas, on se dit « c'est pas de sa faute, il aime pareil ». Alors c'est viré de bord.
J'ai une citation à ce sujet-là qui nous ramène sur la question parce que c'est pas toujours évident. Alors la citation est la suivante. C'est alors qu'on le combattait et qu'on ne l'aimait pas que Dieu nous aimait déjà à la folie. Ce qui est tragique, ce ne sont pas nos péchés, car la grâce surabonde là où le péché abonde. Ce qui est tragique, c'est de ne pas croire à un tel amour. Ouais. Fin de la citation. J'ai l'impression que ma question, elle revient sans cesse. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'y croire, justement? Pourquoi est-ce que cet amour de Dieu n'est pas évident pour tout le monde? Ce serait tellement plus simple.
Oui, tellement plus simple. Et Saint Jean va dire que le seul péché, au fond, c'est de ne pas croire au Christ, c'est de ne pas croire à l'amour de Dieu. Et la première grâce qui doit nous arriver, c'est de croire en cet amour de Dieu, parce que tout le reste va suivre, parce que l'amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint en personne. Alors, mais pourquoi on n'y croit pas? C'est un peu comme la gratuité, c'est qu'on vit d'une certaine manière. Quand on vient au monde, on y croit, l'amour. On ne peut pas ne pas y croire. On y croit. Et on y croit tellement que ça fait mal de ne plus y croire. L'enfant, il vient au monde dans la confiance. Il fait confiance, il fait confiance. Même les animaux font confiance au départ. Et à un moment donné, ils deviennent adultes, là, ils s'en tirent tout seuls. Mais à un moment donné, nous, ce qui arrive, c'est qu'on fait des expériences qui contiennent des blessures, qui sont des contre-amours, qui sont de l'abandon, qui sont des infidélités. Et il ne s'agit pas de condamner le monde, c'est des faiblesses, c'est des péchés. Et finalement, on dit, ça existe, est-ce que ça existe vraiment? Et le Christ lui-même dit à un moment donné, quand je reviendrai à la fin des temps, est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre? Ben, c'est pour dire, il faut la nourrir, la foi, il faut s'en occuper, le bonheur aussi. Mais quand tu vis dans l'amour, là, tu vois tout dans l'amour.
Chers amis, vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous terminons ce soir notre étude de la cinquième béatitude, la béatitude de la miséricorde. Et M. Truchon, je crois que vous voulez nous faire des petits rappels en guise de conclusion, disons, de tout cela.
Oui, c'est parce que tout ça, c'est bien beau, là, mais c'est d'arriver à le vivre 24 heures sur 24, presque, là. D'arriver de le vivre tout le temps. Et là, il y a une dernière méthode dont j'aimerais reparler. C'est la méthode des rappels et aussi des pratiques des respirations. Mais prenons les rappels d'abord. Alors, le rappel affirmatif, c'est-à-dire une dizaine de fois par jour, de s'arrêter, de se toucher, de prendre son pouls. Et c'est évident que là, à ce moment-là, il ne faut pas conduire son auto, là. Puis, pendant deux minutes, de sentir son cœur battre et de sentir Dieu même. Dieu même. Vu qu'on le croit, vu qu'on sait qu'il est là, la preuve qu'il est là, c'est qu'on est là.
Du seul fait qu'on se sache en vie.
Du seul fait qu'on se sache en vie, c'est qu'il est là. Alors, d'arriver, d'associer en nous ce réflexe de conscience que Dieu nous aime dans chaque seconde et de faire ça 10 fois par jour à des heures fixes, si possible, mettons 3 fois, c'est déjà pas si mal. Si ça ne dure pas 2 minutes, ben au moins ça durera 5 secondes. C'est que ça, c'est qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, 3 ans, on arrive vraiment à sentir Dieu en toute chose. Et même le crayon que je tiens dans ma main, je peux le voir comme un instrument du Christ parce qu'il m'aime. Puis pour que je puisse travailler, parce que moi je travaille un peu avec le crayon, alors de le voir comme un lieu de présence. Et c'est là que tout devient une liturgie. Alors, le 2, ça le rappel affirmatif. En passant, tout ce que je viens de dire là, et beaucoup de choses d'ailleurs, se trouve dans le livre de Lanza del Vasto, Approche de la vie intérieure. Alors, continuons. Le rappel, ça, c'était le rappel affirmatif. On peut faire un rappel affirmatif aussi en marchant sur la rue, en marchant sur un trottoir. On peut, en sentant chaque pas sur le trottoir, penser encore que Dieu est avec nous. Parce que Dieu, il est là où sont mes pieds. C'est à espérer que ma tête soit là aussi. Là.
Alors, en prenant conscience de son corps, oui, et de son rapport avec le monde.
J'arrive avec Dieu. Parce que mon corps est un sacrement fantastique. Évidemment, il y a l'Eucharistie, il y a les 7 sacrements, il y a les prêtres, les évêques, le pape, il y a toute l'Église, tout l'appareil ecclésiastique, toutes les... Mais mon corps, c'est tout par mon corps que ça passe. Alors, si j'arrive à par mon corps, d'arriver à mon âme et d'arriver à la cellule intérieure où Dieu est, et me construire une chaise berçante pour jaser avec Dieu, je suis millionnaire. Alors, le rappel affirmatif, arrêté. Ensuite, le rappel affirmatif, en marchant. Ensuite, le rappel interrogatif. Bon, ça, c'est se demander qui mène en moi. Est-ce que ce sont mes instincts ou bien c'est moi? Est-ce que c'est le Christ? C'est qui mène en moi? Mettons, par exemple, que je viens de manger puis j'ai encore faim. Alors, c'est évident que j'ai plus faim, je viens de manger. C'est pas que je m'ennuie. Alors, je suis mieux d'essayer de trouver une réponse adéquate à cette faim-là, qui n'est pas une faim de nourriture. Alors, ça, c'est le rappel interrogatif. C'est se poser des questions souvent pour demander, bon, ça nous mène quoi, ce que je fais là? Les faims que j'ai, là, ça me mène où, ça? Ensuite, il y a les rappels qu'on appelle négatifs, c'est-à-dire, bon, ben, c'est pas une bonne fin, je dois y répondre par d'autres choses. Et c'est ainsi qu'on arrive à transformer tous nos désirs, toutes nos expériences de plaisir et même de douleur et de souffrance en lieu de renaissance, de connaissance, de sagesse, de prendre goût, d'arriver de prendre goût à toute chose. Et c'est là qu'à ce moment-là, encore plus, on est capable de miséricorde. Parce que plus on est heureux, plus on est capable de miséricorde. Si le bonheur qu'on a, il est humain, il est vrai, il est fondé, alors l'amour de soi véritable ouvre sur l'amour d'autrui.
Monsieur Truchon, je pense que votre affirmation clé dans le cadre de la cinquième béatitude au sujet des miséricordieux, c'est la suivante. La miséricorde, c'est le point sommet des béatitudes du bonheur pour cette vie terrestre. Fin de la citation. Moi, j'ai 2 questions. D'abord, est-ce que vous considérez la miséricorde comme un sommet? Et alors, pourquoi est-ce que les auteurs ne lui ont pas accordé cette même première place dans l'ordre des béatitudes?
Oh, je sais pas, là. Si les auteurs... moi, évidemment, mon auteur, c'est toujours Dieu puis la Bible. Dans la Bible, la miséricorde a la place centrale. Je pense qu'aussi, dans la vie de saint, la miséricorde a la place centrale. Parce que la miséricorde, c'est ce qui nous permet d'être unis au Christ en toutes circonstances. Maintenant, être miséricordieux, c'est pas contraire au bonheur, c'est un chemin de bonheur. C'est d'arriver à rendre plus le monde heureux autour de nous et à commencer par nous-mêmes. Alors, dans la béatitude de ceux qui pleurent. Alors, finalement, être uni au Christ et de pouvoir le louanger en toutes circonstances, même en écoutant une nouvelle à 6 heures puis à 10 heures, ben, c'est une moyenne joie, c'est une moyenne libération. Et c'est le sommet de la vie parce que, en cette vie, nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes en pèlerinage, nous sommes en probation, comme on pourrait dire, en travail de croissance et de préparation. Alors, sur cette terre, la révélation la plus profonde qu'on a sur Dieu, c'est la miséricorde. Et la révélation qu'on a la plus profonde sur nous-mêmes, c'est encore la miséricorde. Parce que c'est l'amour qui atteint son sommet. Il atteint son sommet. Pop! Évidemment, quand l'autre n'aura plus de problème, on va être comme plus heureux. On va être heureux que l'autre soit heureux encore plus, si on veut, que quand il n'était pas. Mais il reste que, étant fondé sur Dieu d'abord, qui lui est glorifié et glorifiant en nous, c'est le cœur pur, ça. Alors, c'est toujours le cœur pur qui permet à la miséricorde d'atteindre ses sommets sans nous détruire. Parce qu'être miséricordieux 24 heures sur 24, sans avoir des amis avec qui on n'a pas besoin d'être miséricordieux, c'est capoté. Il faut avoir des lieux de réjouissance et de gratuité où on parle pas de pardon puis de miséricorde. Puis même avec Dieu, c'est important de pouvoir vivre avec Dieu en pensant plus à nos péchés. À un moment donné, Dieu peut se tanner puis dire, bon, là, Raymond, là, arrête tes problèmes. Arrête les problèmes d'Ottawa. Arrête le service de la faune. Arrête tout le kit, là, puis arrête tes déficiences, là. Là, on prend un repas ensemble, OK, là? Puis là, on s'aime.
Wow. Monsieur Truchant, lors des épisodes que nous avons consacrés à la quatrième béatitude, on a beaucoup parlé de la justice intérieure, complément essentiel de la justice extérieure, sociale, etc. Or, au sujet de la miséricorde, vous affirmez qu'elle est la justice intérieure rendue à terme. J'ai l'impression que vous y voyez une espèce de perfection des cœurs. Est-ce que la miséricorde, ce serait donc ça, la fin du cheminement, l'actualisation de l'amour que Dieu attend de nous?
Ben oui, c'est la définition du Christ. Alors, le Christ, c'est la perfection de l'amour de Dieu dans un homme pour nous. Alors, la sainteté, c'est d'arriver à cette perfection face à nous-mêmes et face aux autres. Ensuite, au ciel, ben là, on parle plus de miséricorde parce que c'est la noce éternelle.
Nous terminons ce soir notre étude de la cinquième béatitude, la béatitude de la miséricorde. Avant de terminer, Monsieur Truchant, j'ai une question en particulier. Vous dites qu'il y a un rapport entre la miséricorde et les persécutés pour la justice, que nous aurons à souffrir de notre attention à l'autre, de notre attitude plus ou moins habile, de l'incompréhension, de rejet de notre aide et même de notre côté du rejet de l'autre. Et vous ajoutez, mais ce cheminement demeure profitable et reste celui de la consolation. Qu'est-ce que vous entendez par profitable? Quelle sorte de profit est-ce qu'on peut bien trouver dans l'incompréhension et le rejet?
Bon, d'abord, j'aimerais rappeler que Saint François disait que c'est la persécution qui est le sommet du bonheur, parce que, évidemment, c'est là que la miséricorde atteint son plein épanouissement. D'abord, la persécution. C'est quoi cette histoire-là, là? On en reparlera puisqu'il y aura une béatitude spéciale là-dessus à toute fin. Il y aura deux émissions là-dessus. Mais quand même, on peut dire que aimer quelqu'un, c'est le prendre au complet, tel qu'il est. Et de prendre avec lui ce qui plaît pas, puis ce qui plaît, puis ce qui plaît pas à lui-même non plus, très souvent. Alors, aimer, c'est en fait C'est un acte de totalisation dans la relation de personne à personne. C'est pas aimer ci, pas aimer ça. C'est quand t'aimes quelqu'un, tu prends tout au complet et tu l'aimes inconditionnellement. S'il y a des fonctionnements qui sont discordants, qui sont des destructeurs, évidemment, on essaye de guérir, des éliminer. Et le Christ, c'est pour ça qu'il se présente comme médecin, c'est pour découvrir nos blessures et nous les découvrir, et nous les faire découvrir et nous les faire les traiter. Mais tout ça, là, ça fait de la souffrance. Parce que le médecin qui s'approche d'une plaie, là, il peut se boucher le nez, là, mais c'est un problème. Alors, s'approcher d'un malade, c'est une source de problème. C'est comme aller dans un deuil, c'est plus plaisant d'aller aux noces. Alors, guérir les malades, travailler aux soins des malades, c'est toute une tâche, c'est plus qu'un travail, ça, c'est une vocation. Alors, ça fait... Et des fois, le malade ne veut pas être guéri, ça, c'est encore pire. Et là, évidemment, on ne peut pas le forcer, mais il faut quand même essayer de lui montrer le bien-être de la guérison, de le travailler un peu pour que, finalement, il s'en sente mieux. Alors, finalement, tout acte d'amour coûte notre vie. Et notre vie va y passer. Et souvent même, on est provoquant en étant heureux, parce que c'est comme si on montrait aux autres qu'en fait, on peut l'être. Et à ce moment-là, les autres sont pas trop intéressés à redécouvrir que le bonheur existe, parce que c'est tout un travail que de recommencer sa recherche, que de détruire ses synthèses, puis ses prérogatives ou ses avantages qu'on a mis, par exemple, à s'enrichir en dehors des lois, pensant trouver là le bonheur extraordinaire. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut découvrir? On peut découvrir bien d'autres choses que le bonheur. Alors finalement, renaître, c'est quelque chose. Et Nicodème avait des gros problèmes avec ça. Il se demandait s'il fallait rentrer dans le ventre de sa mère, puis il voyait bien qu'il n'était pas capable de faire ça. Alors l'amour, au fond, de toute façon, nous remet en question pour nous faire tout reprendre d'une certaine manière, à moins que tous nos amours soient en santé, là.
Je poursuis votre affirmation, je pense, avec ma question suivante. On comprend donc que le but de Dieu dans la béatitude, celle des miséricordieux, c'est d'enseigner à l'humanité la miséricorde, oui, en nous démontrant la sienne comme modèle. Il veut donc que nous soyons miséricordieux et vous ajouter pour continuer son œuvre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire poursuivre l'œuvre de Dieu?
D'abord, justement, c'est là que j'allais intervenir, c'est que non seulement Dieu se présente comme un modèle, mais comme la source même de notre pouvoir de miséricorde. Autrement dit, il faut la recevoir de lui. Et là, j'en profite pour dire deux références extrêmement importantes au niveau de la TOBS, la traduction œcuménique de la Bible, Romains 1:3, note G, puis Romains 3:24, note W. Au fond, qu'est-ce qu'on voit dans ces notes-là qui sont extraordinaires? Elles sont faites par le Père Lyonnais. Il a travaillé pendant de longues années. Ils sont un résumé de tout un travail. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'au fond, tout nous vient du Christ. Et c'est justement là qu'on peut faire des choses qui nous dépassent. Mais justement, la miséricorde, là, celui qui est miséricordieux puis qui libère l'être aimé en lui-même d'abord, puis ensuite peut-être en lui un jour, à un certain moment, c'est une grande consolation. Alors, au fond, la persécution, là, comment peut-elle devenir un bonheur? Trois éléments la constituent. Première chose, d'abord, elle est une construction de l'Esprit-Saint plus que toutes les autres. Parce que l'Esprit-Saint, dans sa dernière tâche, doit nous apprendre à souffrir pour l'être aimé. Quand on est capable de souffrir pour quelqu'un qu'on aime, c'est le dernier baptême qu'on est en train de vivre. Donc, le dernier passage d'un bonheur indestructible. Ça, c'est certain. Maintenant, le premier élément qui constitue cette béatitude, c'est d'abord d'être persécuté à cause du bien qu'on fait, et non pas à cause du mal, à cause du bien. Parce que si c'est à cause du mal, on a une conversion à vivre. Mais si c'est à cause du bien, on doit se réjouir, dit le Christ. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'être configuré à lui, d'une part. Deuxièmement, on est en train de se débarrasser de ses propres souffrances. Et ce qui arrive, troisièmement, c'est qu'on reçoit une confirmation du sens de la vie, qui est au fond le sacrifice, c'est-à-dire l'offrande de soi par amour. Quand on vit pour rien, on meurt pour rien. Alors l'idéal, c'est de vivre pour quelque chose.
Monsieur Truchon, dans un chapitre sur la miséricorde, vous énoncez une prière dans laquelle vous dites « Fais-moi reconnaissant de tes merveilles comme dans les souffrances, afin qu'on voit bien que je suis pris par toi, Dieu, ta puissance, ta vérité, ta bonté, ton amour. » Fin de la citation. Pourquoi est-ce que vous précisez « afin qu'on voit bien que je sois pris que je suis pris par toi. Pourquoi est-ce que ma relation intime avec Dieu, ouais, je devrais nécessairement la démontrer à la face, ouais, du monde?
D'abord, premièrement, pour moi-même, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Jésus dit ça. Seulement que, quand on souffre pour l'être qu'on aime, on devient, c'est plus qu'un arbre de Noël, là, on devient une manifestation éclatante d'amour parce que on semble pas en tirer profit. C'est rien que pour l'autre qu'on fait ça, parce que tant qu'on jouit, l'autre peut toujours bien dire, ben c'est parce que ça te fait jouir. Mais quand on souffre là, pour l'être qu'on aime, là, l'autre là, il est sûr comme jamais qu'il est aimé. Alors c'est au fond la preuve la plus puissante d'un amour durable qui va durer, parce que toutes les souffrances qu'on partage rendent des personnes unies d'une façon indestructible. Tandis que les plaisirs, pas nécessairement. Tant qu'on a de l'argent, tant qu'on profite, on a des amis beaucoup, mais quand on perd de l'argent, on commence à avoir moins d'amis. Autrement dit, il reste ceux qui nous aiment vraiment, par exemple, ceux qui nous ont mis au monde et le reste. Alors, Dieu, lui, il reste. Et le Christ, pourquoi méditer le Christ sur la croix? Ben justement pour ça. Moi, je le médite comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la preuve irréfutable que moi, Raymond Truchon, il m'aime à mort. À ça, j'ai besoin de penser à ça tout le temps.
Je pense qu'il n'y a pas seulement cet aspect du royaume dans la nécessité de la miséricorde. Je vois aussi que ceux qui ne l'exercent pas ne bénéficient même pas de l'amour de Dieu ni de son pardon, j'imagine. Alors, M. Truchon, sans la miséricorde, on est perdu. Pas de pardon, pas de salut, rien.
Ouais, c'est que du côté de Dieu, le pardon est donné en Jésus-Christ, mais la personne ne le reçoit pas ou parce qu'elle n'est pas prête à le recevoir et le reste. Là, on ne veut pas entrer dans des mystères insondables, mais là, on vit un peu comme les animaux, quoi qu'on est plus intelligent quand même. Mais au fond, est-on plus intelligent si on ne dépasse pas l'amour captatif? Alors, on vit au fond comme pour rien. Et c'est Enrico Macias qui disait, si je n'ai pas quelqu'un dans ma vie, je vis pour rien. Il chantait ça, lui-là. Si je ne vis pas pour l'amour, je vis pour rien.
Monsieur Truchon, il nous reste une petite minute puisqu'on doit terminer notre étude de la cinquième béatitude. Je vais vous demander de résumer le message de la béatitude des miséricordieux, son fonctionnement et les moyens pour la faire fonctionner, comme vous dites. Tout ça dans une minute.
Oui. Alors, c'est certain que j'ai une valeur infinie, moi, Raymond Truchon. Et la preuve, c'en est le Christ qui est mort sur la croix pour moi. Puis il n'est pas rien que mort sur la croix pour moi. Il a fait ça pour me guérir, pour me faire vivre une vie éternelle avec la Trinité dont il est le Fils, vers le Père et dans le Saint-Esprit. Et sur Terre, on peut vivre ça, puis on devient millionnaire, même si notre budget n'est pas extrêmement très haut ou s'il n'a pas remonté beaucoup. On apprécie tellement tout qu'on devient plus économique.
Alors, nous allons devoir nous arrêter ici. Merci de ce résumé. Merci aussi de cette très belle leçon sur la miséricorde que nous avons vue au cours de ces quatre derniers épisodes. Je rappelle à nos auditeurs que dès la semaine prochaine, donc, nous abordons la sixième béatitude, la béatitude des cœurs purs. Et rien qu'à voir l'expression de M. Truchon, je pense qu'il nous réserve des bons moments et des leçons bien originales encore une fois. Merci, M. Truchon.